Vous êtes sur France Culture. Tout de suite, le journal de 6h30 avec Anne-Laure Chouin.
Bonjour à tous. Le dialogue de sourds continue entre Bruxelles et les élus britanniques. Hier soir, ces derniers ont adopté un amendement qui donne licence à Theresa May d'aller renégocier l'accord du Brexit. Sur le sujet du rétablissement d'une frontière en Irlande, un répit pour la Première Ministre, une perte de temps pour Bruxelles. C'est ce que nous dira Angélique Bouin. À Chypre, le sujet du Sea-Watch, ce bateau d'une ONG allemande, s'est invité dans le sommet européen sur les migrations. La CEDH a exigé hier de l'Italie qu'elle le laisse accoster. Nous reviendrons également sur les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, dont les relations se discutent aujourd'hui même. Et puis en France, faut-il ou non rapatrier les djihadistes français partis en Syrie et détenus sur place? La question s'est reposée hier. Elle a obtenu de son Parlement de renégocier l'accord du Brexit, à défaut de pouvoir l'obtenir de Bruxelles. Hier, deux mois pile avant le 29 mars, date officielle du Brexit, 317 députés britanniques contre 301 ont voté un amendement qui demande à Theresa May de modifier l'accord de retrait négocié avec l'Union européenne, en particulier la clause de sauvegarde sur la frontière irlandaise, ce backstop au centre de toutes les discussions. Une façon de gagner un peu de temps, puisque Bruxelles ne souhaite de toute façon pas discuter plus. À Bruxelles, justement, la correspondance d'Angélique Bouin.
La partie de ping-pong continue entre Londres et Bruxelles dans une unité affichée toujours parfaite côté européen. L'accord de retrait n'est pas négociable, a immédiatement déclaré hier soir un porte-parole du président du Conseil européen. Mais si les positions du Royaume-Uni pour le futur partenariat devaient évoluer, alors l'Union serait prête à reconsidérer son offre. En clair, on ne revient pas sur les 17 mois de négociations, sur le filet de sécurité qui doit éviter le retour d'une frontière physique en Irlande du Nord. Il doit s'appliquer à compter du 29 mars. Le temps nécessaire pour trouver une meilleure solution. La position des 27 ne change pas d'une virgule, mais les options pour trouver des mécanismes alternatifs au backstop existent bien, rappellent certains diplomates, atterrés devant le temps perdu par Londres. Tout dépend de ce que Theresa May entend par rouvrir les négociations. On devrait être rapidement fixé. Elle ne dispose que de 15 jours pour revenir à Bruxelles clarifier sa position.
Et c'est dans ce contexte où les polices d'Irlande du Nord et de la République d'Irlande redoutent une reprise du conflit nord-irlandais qu'un groupe qui dit être l'IRA a revendiqué hier dans un communiqué l'attentat à la voiture piégée commis le 19 janvier devant un tribunal à Londonderry. L'explosion n'avait pas fait de victimes. Notre combat continue, lit-on dans ce communiqué. Les précisions de notre correspondant à Belfast, Eric Biegala.
Une revendication signée IRA pour Irish Republican Army, armée républicaine irlandaise, et non de l'un des groupes se réclamant de la poursuite de la lutte armée, comme la Real IRA ou la Nouvelle IRA, vers qui les soupçons policiers se dirigeaient jusque-là. Quels qu'ils soient, les activistes ont bien pris soin cependant d'indiquer dans leur communiqué que le Brexit ou les atermoiements quant à une frontière dure ou douce en Irlande, à l'issue de ce Brexit, n'avaient strictement rien à voir avec leurs agissements. Ceux-ci ne sont, indique encore le communiqué, que la perpétuation, je cite, du combat contre l'Empire britannique. Le groupe annonce vouloir s'en prendre aux forces de la couronne, à leur personnel et menace également tous les collaborateurs des Britanniques dans l'île. La voiture piégée qui a explosé au milieu de la rue devant le palais de justice de Londonderry, peu après 20h le 19 janvier, n'avait pas fait de victimes, mais il s'en est fallu de peu. Comme durant les vagues d'attentats des années 70 et 80, la police locale avait été prévenue 15 minutes avant l'explosion d'évacuer la zone. Certains habitants avaient effectivement été prévenus et évacués. Un asile pour personnes âgées avait également été évacué. En revanche, un groupe d'adolescents qui déambulait dans la rue était passé à proximité immédiate de la voiture, une à deux minutes avant qu'elle n'explose.
Eric Biegala, la Cour européenne des droits de l'homme a ordonné hier à l'Italie de porter assistance au Sea-Watch, ce navire d'une ONG allemande qui transporte à son bord 47 migrants recueillis au large de la Libye. Le gouvernement italien refuse pour l'instant de le laisser accoster. Le bateau s'est retrouvé hier au centre des discussions, au sommet sur les migrations de Chypre où se retrouvaient les dirigeants d'Europe du Sud. Sur place, les précisions de Bertrand Galichet.
Le navire de l'ONG allemande Sea-Watch s'est imposé hier au sommet de Chypre, où la question des migrants en Méditerranée était au programme. Emmanuel Macron y voit une illustration des défis à relever en commun pour les pays du sud de l'Europe, dont la France.
Au moment où nous parlons, un navire, le Sea-Watch 3, se trouve à proximité de la Sicile avec 47 migrants à bord. Nous l'avons évoqué également avec le Premier ministre italien. Je pense que cette solidarité dont nous parlons doit être appliquée de manière concrète, pleine et entière.
Le président milite pour un débarquement des migrants dans le port le plus proche, donc en Italie, et plaide pour une répartition de leur prise en charge. La France est prête à y participer. En remerciant les pays amis, le dirigeant italien Giuseppe Conte regrette le manque de réalisme de l'Europe. C'est une incapacité que nous déplorons tous, dit-il, en insistant sur la nécessité de trouver un mécanisme pérenne. Selon lui, l'Europe risque d'imploser parce qu'elle traîne pour trouver des solutions.
2275 migrants sont morts ou portés disparus en Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe l'année dernière, des chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Un accord de principe sur quelques questions très importantes. Hier, alors que les négociations entre les talibans et les États-Unis ont recommencé au Qatar, l'émissaire américain pour l'Afghanistan s'est félicité de l'avancée de ces négociations. Rien n'indique encore que la paix en Afghanistan soit à portée de main, mais les Américains qui souhaitent en retirer leurs troupes se montrent optimistes. On y reviendra plus largement dans notre journal de 8 heures. Le sujet empoisonne leurs relations pratiquement depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. La Chine et les États-Unis se retrouvent aujourd'hui et demain pour évoquer leurs relations commerciales. Les deux superpuissances économiques doivent trouver un accord avant le 1er mars, date de la fin de la trêve commerciale entre les deux pays. Trêve aménagée après la surenchère d'annonces de taxes de la part des deux gouvernement. La Maison-Blanche avait notamment menacé d'augmenter les taxes douanières à 25% sur 200 milliards de dollars de marchandises chinoises. Alors on a beaucoup parlé du soja, de l'acier ou de l'aluminium chinois, mais beaucoup d'autres secteurs de l'économie souffrent. Exemple avec ce reportage de Dominique André dans une fabrique d'instruments de musique.
Les deux tiers des instruments de musique vendus dans le monde proviennent de Chine. L'usine Sweeping ne compte que 25 employés, mais elle est renommée à l'international pour la qualité de ses violons. L'entreprise fabrique 3000 instruments par an, dont 2000 sont vendus aux États-Unis. Les effets de la guerre commerciale se font sentir, reconnaît le responsable des ventes de la fabrique Sweeping, Wang Ruoti.
En Chine, une grande usine de guitare peut produire jusqu'à 10 000 instruments par mois. Ils travaillent sur une chaîne industrielle et ce genre d'usine est plus touché que nous. Ces tensions entre les États, pour les gens comme nous, ont bien sûr des conséquences, mais je suis sûr que nous ne sommes pas les seuls à être concernés. Les entreprises américaines sont aussi touchées. De toute façon, j'espère bien que ça va se terminer le plus tôt possible. Pour notre usine de violon, les États-Unis représentent notre premier marché. Depuis le deuxième semestre de l'an dernier, nous avons commencé à réfléchir à augmenter nos ventes au marché intérieur chinois.
Mais les célèbres violons du luthier Sweeping ne suffiront pas à amadouer Donald Trump. Au-delà de la réduction du déficit américain en Chine, le président américain veut des réformes structurelles de l'économie chinoise. La Chine serait prête à faire des concessions, selon les experts, mais ne remettra pas en cause ses grandes entreprises publiques.
Un reportage de Dominique André, où se repose la question du devenir des djihadistes français détenus en Syrie. Hier, BFM TV croyait savoir que 130 personnes allaient être rapatriées depuis la zone syrienne contrôlée par les Kurdes. Devant l'Assemblée hier après-midi, le ministre de l'Intérieur a démenti ce chiffre. En revanche, Christophe Castaner n'a pas exclu le retour en France d'une partie de ces djihadistes. Jean-Charles Brizard est président du Centre d'analyse du terrorisme. Selon lui, ce rapatriement serait la meilleure solution car les Kurdes n'ont pas les moyens de les surveiller sur le long terme. Il était hier l'invité du journal de 22h.
C'est le principe, hein, les groupes armés qui effectivement capturent sur un théâtre dans le cadre d'un conflit armé non international, c'est le cas en Syrie, peuvent effectivement capturer des individus et peuvent effectivement, a fortiori également, les juger. En l'occurrence, on se rend compte de quoi ? D'abord, la structure de ce groupe armé des Kurdes de Syrie est très embryonnaire, l'appareil judiciaire est quasi inexistant, les conditions de détention ne permettent pas, encore une fois, de garantir que les djihadistes français ne puissent pas s'échapper. Il y a encore une fois de véritables menaces, donc tout ça pèse sur la décision et le devenir de ces djihadistes eux-mêmes, évidemment, et sur la manière dont on va traiter leur situation. Et je crois qu'effectivement, il est beaucoup plus sage de penser qu'on puisse rapatrier, enfin en tout cas transférer, puisque c'est un transfert qu'on va opérer de ces djihadistes vers la France pour qu'ils soient concrètement détenus dans nos prisons et puis ensuite qu'ils puissent effectivement répondre de leurs actes devant une cour d'assises. C'est ce qui les attend. Ce qui va se passer avec les djihadistes le français se passe de la même manière aujourd'hui avec les djihadistes, par exemple, américains. Les États-Unis ont conclu des accords informels avec soit les Kurdes de Syrie, soit les Kurdes d'Irak, pour procéder au cas par cas, au transfert de ces personnes. Un individu interpellé il y a 10 jours de cela par les Kurdes de Syrie est déjà sur le sol américain et il sera jugé par un tribunal américain.
Jean-Charles Brizard, interrogé par Stanislas Vazak. Un mot du temps de ce mercredi, il va continuer de neiger ce matin jusqu'en plaine du nord-est à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Le vent va souffler fort sur la côte atlantique, ciel plus lumineux sur la Méditerranée. Les températures comptées ce matin entre 0 et moins 5 degrés de l'intérieur vers les côtes. Cet après-midi, il fera de 1 à 11 degrés du nord au sud.